table ronde est ouverte et les débats vont pouvoir s'engager.
La République a besoin de savants. Leur découverte, le rayonnement qui s'y attache et leurs applications contribuent à la grandeur d'un pays. Or, les crédits de la recherche sont dérisoires. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, chers élus également, merci de votre invitation à participer à cette soirée d'échange autour de l'histoire de la politique de la recherche scientifique en France, qui nous emmène 25 ans en arrière, hein, au moment de la fondation de l'espace Mendès France de Poitiers. Alors, on a découvert tout à l'heure les coulisses de cette fondation de l'espace Mendès France, des coulisses et des tribulations initiales qui nous ont emmenés quand même, si j'ai bien compris, à la limite de la légalité. Donc l'historien que je suis évitera de travailler sur l'histoire de cette période pour ne pas ressortir des cadavres des placards, sait-on jamais. Alors, en revanche, 25 ans, ça ne suffit pas à mon propos. Hein, je me tourne alors vers le thème de cette soirée, c'est 50 ans de recherche et de diffusion. Eh bien, 50 ans, cela ne me suffit pas davantage. Je vais donc surenchérir sur les dates, c'est moins qu'on puisse attendre d'un historien, et vous proposer d'explorer une période plus longue dans laquelle s'ancre l'action de Pierre Mendès France en faveur de la recherche, car, et vous l'avez sans doute bien compris, la déclaration que j'ai citée en prenant la parole, bien qu'elle semble parfaitement intemporelle, hein, c'est sans doute bien triste, en tout cas pour la question des crédits dérisoires accordés à la recherche, mais c'est ainsi, cette déclaration donc est sortie de la bouche de Pierre Mendès France. Nous sommes le 3 juin 1953, il y a 60 ans donc, hein, première surenchère dans les dates, et le député de l'Eure monte à la tribune de l'Assemblée nationale pour solliciter l'investiture de président du Conseil. Alors bien sûr, son constat sur la situation peu favorable de la recherche est loin d'être son seul propos hein, ce jour-là, le 3 juin 1953. En revanche, sa référence historique, elle est très claire. Cette phrase, elle vient répondre à quelques 160 ans de distance. Hein. Là, c'est une très grosse surenchère, mais rassurez-vous, je ne vais pas m'y attarder. Vient répondre au président du tribunal révolutionnaire qui avait condamné Lavoisier en 1794 en affirmant que la République n'avait pas besoin de savants. Hein. À l'époque, un des confrères de Lavoisier s'était horrifié. Il ne leur a fallu qu'un moment pour faire tomber cette tête et 100 années ne suffiront pas pour en retrouver une semblable. Alors si nous fermons cette parenthèse révolutionnaire et revenons à juin 53, il n'est pas courant à l'époque de voir la cause de la recherche scientifique défendue avec autant d'ardeur jusque sur le perchoir de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si c'est plus courant aujourd'hui, peut-être qu'on va échanger sur ce point avec Michel Blais. Vous verrez que nos deux interventions sont un peu complémentaires, on ne les a pas préparées ensemble, hein, ce n'est pas la première fois qu'on ne travaille pas ensemble. On n'est pas d'accord sur un certain nombre de points. Ça non plus, c'est pas la première fois qu'on sera pas d'accord sur un certain nombre de points. Mais pas sur la politique de la recherche. Oui, encore qu'il y ait... Bon, on verra. Alors d'autant plus qu'à ce moment-là, en juin 1953, le contexte national et international, avec notamment la situation toujours plus difficile que la France connaît en Indochine, impose d'autres priorités à Mendès. C'est la raison pour laquelle cet appel en faveur de la recherche, même s'il est noyé dans un long discours consacré à la situation intérieure et extérieure de la France, ne passe pas inaperçu. Alors, à la surprise générale, en juin 1953, Pierre Mendès France n'obtient pas l'investiture de président du Conseil. Ce n'est que partie remise. Hein. Mais sa déclaration en faveur de la recherche, elle aura des suites très concrètes et sur le long terme. Alors, avant de les passer en revue, je vous propose tout d'abord de nous tourner vers les bases sur lesquelles repose cet engagement mendésiste. Alors, ces bases, elles ont deux origines. Une origine, on peut dire, lointaine, et puis une origine beaucoup plus proche, plus immédiate. Lointaine, tout d'abord, jeune député de l'Eure, il avait été élu, Mendès France avait été élu en 1932 à l'âge de 25 ans, hein, c'est jeune pour un député, même sous la Troisième République, il avait suivi de très près l'action entreprise à partir de 1936 par le gouvernement de Front Populaire, qu'il soutenait ardemment, hein, en faveur de la recherche scientifique. Michel vous en a dit quelques mots tout à l'heure. et en particulier des deux personnalités qui ont alors le plus marqué ce domaine, Jean Perrin, prix Nobel de physique, désigné en 1936 par Léon Blum au sous-secrétariat d'État à la recherche scientifique, et Jean Zay, son ministre de tutelle, ministre de l'Éducation nationale, à l'âge de 32 ans d'ailleurs, hein, en 1936, hein, c'est une époque où visiblement on donnait beaucoup de chance aux jeunes. Et l'empreinte d'ailleurs profonde laissée par Jean Zay à l'Éducation nationale, une empreinte qui perdure jusqu'à nos jours, hein, ben, prouve que ben, cette chance, elle n'était pas complètement imméritée. Alors une foule de décisions importantes, elles avaient été prises à l'époque, hein, une foule d'actions avaient été entreprises aussi. Bon, c'est un vrai déchirement pour moi, parce que bon, le temps va très vite passer, je ne pourrais pas revenir sur cette période du Front populaire que vous avez de toute manière très bien évoqué, Michel, ça c'est la brosse à reluire rapidement. Mais puisqu'on... Oui, c'est ça, c'est le directeur de mon unité, d'où les fréquents échanges de non-travail, mais en revanche de confrontation. Donc nous, on se réunit quand même autour de la recherche scientifique et de sa diffusion, hein, donc là encore, vous l'avez évoqué tout à l'heure, du côté de la recherche scientifique, c'est la création du CNRS, enfanté par le Front populaire, pas né sous le Front populaire, mais dont les bases avaient été lancées à ce moment-là, et puis du côté de la diffusion, en effet, la création du Palais de la Découverte, ce n'était pas rien non plus dans le contexte de l'époque. Quant aux origines immédiates de la pensée de Mendès, elle découle en partie de cette expérience du Front populaire qu'il a suivi de près et dont il entend très bien s'inspirer au milieu des années 50. Alors d'une part parce que gravitent autour de lui un certain nombre d'hommes, je devrais dire, et de femmes pour faire parité, mais hélas ce n'était que des hommes, hein, d'hommes qui ont été associés dans les années 30, par exemple le physiologiste Henri Laugier, le minéralogiste Henri Longchambon, hein, qui le conseille, Mendès France, dans les années 50, et qui, dès les années 30, avait occupé des fonctions très importantes, à la direction notamment du CNRS. Et d'autre part, parce que Pierre Mendès France s'est persuadé, comme l'avaient été les hommes de 36, que la recherche de 1936, hein, que la recherche n'est pas seulement une œuvre de connaissance et de libération pour l'homme, mais qu'elle peut également être un puissant stimulant pour l'économie, hein, sans justement toujours percevoir qu'il peut exister une sorte de discordance entre ces deux conceptions, hein. Peut-être que justement, puisque Michel a tiré à boulet rouge sur cette question-là, on y reviendra pendant les échanges. Je ne vous ai pas trouvé si équilibré que ça, moi. Dans la foulée de son discours de juin 1953, Mendès France est contacté par la revue La Nef, alors qu'il prépare pour l'année suivante un numéro spécial sur le thème « La science et l'homme ». Il est le seul politique à être contacté, à être sollicité par la revue à ce moment-là. Alors, dans son article intitulé « Réflexion d'un homme politique sur l'enseignement supérieur », il n'y va pas avec le dos de la cuillère, hein. Et ce, dès les premières phrases, je vais me permettre de lire quelques passages, enfin en tout cas l'ouverture de cet article. « Nous n'avons pas eu de prix Nobel de la science depuis 1935 ». On est en 53 donc, hein, quand il écrit ça. « Or, si une nation qui a perdu une partie de sa puissance matérielle peut se relever et se reconstruire, elle est vouée à la décadence si elle perd sa vivacité intellectuelle. Et d'autre part... un économiste soucieux de la propriété matérielle, industrielle et agricole du pays, de sa position dans la compétition internationale, ne peut être que préoccupé par l'insuffisance de nos efforts et de nos résultats dans l'ordre de la recherche, germe et ferment de tous les progrès, proches ou lointains, de la production comme de la productivité. » Alors toujours ces deux préoccupations, en somme, celle, on pourrait dire, désintéressée de la connaissance, de l'intelligence, et puis celle beaucoup plus utilitaire, en fait, hein, de l'intérêt pratique, de l'intérêt, pas forcément immédiat d'ailleurs, ça peut être un intérêt à long terme, justement, de la recherche scientifique. Je précise au passage, hein, si tant est que l'histoire peut parfois venir nourrir nos réflexions actuelles, que ces deux aspects sont placés sur un pied d'égalité par Mendès France. Hein, le côté, l'aspect désintéressé, connaissance et intelligence, et puis l'aspect production et productivité. Alors que, en effet, là, je vous rejoins, dans les discours qu'on entend depuis un certain nombre d'années, voire peut-être même un certain nombre de décennies déjà, il y a une sorte d'asymétrie qui s'est introduite entre ces deux aspects. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, contrairement à vous, Michel. Je n'ai pas dit que c'était bien ou mal. Ah, on a pu lire entre les lignes quand même, hein, entre les mots. Je me contente juste de le constater.
J'ai défini ce qu'on entendait par recherche.
Oui, oui, d'accord, d'accord, d'accord. On n'est pas encore à la discussion, là, attendons. Alors, le numéro de la nef paraît début juin 54. Quelques jours plus tard, Mendès France devient, cette fois-ci, président du Conseil. La coïncidence, elle est assez formidable, hein, et on pourrait imaginer qu'elle aura des conséquences très directes sur l'action du nouveau président du Conseil, du nouveau chef du gouvernement. Sauf qu'il y a d'autres coïncidences qui ne jouent pas dans le même sens à cette époque-là. Hein. Le pays vient d'être ébranlé par un désastre, Dien Bien Phu. Les regards des Français ne se portent pas forcément vers les laboratoires et vers les universités à cette époque. Ils se portent vers Genève, hein, où se négocient les accords qui doivent mettre un terme à cette terrible guerre d'Indochine qui pèse lourdement en France et qui pèse aussi très lourdement sur l'économie du pays. Hein. Je veux dire, à cette époque-là, là, la France entretenait un contingent de 150 000 hommes à 12 000 km de la métropole. C'est quand même pas rien. Hein. Et les regards des Français se portent aussi de plus en plus vers l'Afrique du Nord, la Tunisie tout d'abord, et puis l'Algérie qui s'enflamme également. Hein. Rien d'étonnant en fait à cette époque que dans le fait que le président du Conseil, Mendès France, cumulait également le portefeuille de ministre des Affaires étrangères, parce que c'était là, à ce moment-là, comme à beaucoup d'autres périodes d'ailleurs, mais en tout cas à ce moment-là c'était assez lourd, que se trouvaient les dossiers les plus brûlants. Alors la science, me direz-vous, dans tout cela Pierre Mendès France l'aurait-il séduite en période électorale pour mieux l'abandonner ensuite, une fois arrivé aux responsabilités, hein. Après tout, ça ne serait pas la première fois ni la dernière que cela se serait produit dans l'histoire de notre pays. Hein. Eh bien non, il tient ses promesses en établissant sur le modèle du Front populaire auprès du ministre de l'Éducation nationale un secrétariat d'État à la recherche scientifique et au progrès technique. Hein. On est toujours dans son esprit, dans ces deux conceptions, qu'il confie à Henri Longchambon, homme du Front populaire, précisément, et autour de lui vont graviter une vieille garde et puis une jeune garde. Alors, la vieille garde a des personnages emblématiques, je vais n'en citer qu'un, Henri Laugier, lui encore, hein, premier directeur du CNRS au moment de la déclaration de la guerre, et qui vient d'atteindre l'apogée de sa carrière comme premier secrétaire général adjoint des Nations Unies, hein, c'est donc un homme qui a du poids à l'époque. Et puis du côté de la jeune garde, il y a par exemple un mathématicien éminent qui va beaucoup faire parler de lui à cette époque, qui va continuer à faire beaucoup parler de lui par la suite, tout juste élu au Collège de France, André Lichnerowitz, qui a émerveillé Mendès France par la clarté de ses vues et aussi par son opposition à toutes les lourdeurs qui semblent peser sur le système d'enseignement supérieur et de recherche en France à cette époque-là déjà. Alors, quelles sont les réalisations de ces hommes qui commencent à œuvrer durant l'été 54 autour de Mendès France ? Un conseil supérieur de la recherche scientifique et technique, toujours, hein, scientifique et technique, est mis en place dès la rentrée de septembre 54. Il est chargé de faire des propositions pour tout ce qui concerne la recherche au secrétaire d'État et à son chef de gouvernement, donc hein, à Mendès, à Longchambon et à Mendès, ensuite Mendès France, de voir si ces mesures sont applicables et comment elles doivent être ensuite mises en œuvre. Seulement, hormis la discussion d'un budget volontariste pour l'année suivante, ces réalisations ont tout juste le temps d'être ébauchées pour une raison toute simple. Le gouvernement de Mendès France chute le 5 février 1955, 7 mois seulement après sa désignation. Alors, me direz-vous, comment se fait-il que Pierre Mendès France ait à ce point marqué la politique de la recherche scientifique en France, puisqu'à l'évidence, il n'a pas eu le temps de faire grand-chose dans ce domaine pendant sa présidence du Conseil des ministres? Eh bien, la raison est toute simple, les réalisations ne verront le jour qu'après son départ. Car c'est uniquement à partir de février 55, lorsqu'il n'est plus au pouvoir, qu'il est redevenu député de l'heure quand même, mais qu'il n'occupe plus les fonctions qu'il occupait précédemment, qu'il parvient à faire bouger les lignes dans ce domaine. Alors je relève au passage, hein, il y a peut-être des admirateurs de la 4e République qui se sont glissés dans la salle. Après tout, c'était une soirée ouverte à tous, donc ils ont tout à fait le droit d'être là. Je relève donc que c'est quand même pas très bon signe. C'est quand même pas très très bon signe pour un régime politique quand même de pouvoir mettre en œuvre les grandes recommandations que l'on a faites au moment où l'on quitte le pouvoir, un pouvoir qui vivait d'ailleurs déjà ces dernières années. Voilà pour la neutralité en effet. Celui qui redevient donc député de l'heure, on en est historien, on n'en est pas moins homme, hein. Celui qui redevient donc député de l'heure s'intéresse de près à la mise en place d'un grand colloque national consacré à la recherche scientifique Placé sous le patronage des cahiers de la République, dont Mendès France préside le comité directeur, et appuyé sur un comité pour l'expansion de la recherche scientifique, composé à la fois de parlementaires et de scientifiques, que Mendès France préside également. Alors, pour tous les détails de l'organisation de ce colloque, qui se tient dans la ville de Caen, ça aurait été bien que ça soit à Poitiers, on aurait pu faire un lien plus évident, mais malheureusement, ils ont choisi la ville de Caen, dont l'université venait d'être reconstruite à neuf, après avoir beaucoup, évidemment, souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, au début de mois de novembre 1956, dans la ville de Caen, je vous encourage à consulter un ouvrage assez exceptionnel, publié récemment par l'un des acteurs capitaux de cette page de l'histoire de la recherche en France. Il s'agit du livre que Jean-Louis Crémieux-Briac a fait paraître chez Armand Collin et qui s'intitule « La politique scientifique de Mendès France, une ambition républicaine ». Alors, Caen, en 1956, compte en effet parmi les grandes pages de l'histoire de la recherche au XXe siècle. C'est un grand rendez-vous, une sorte d'assises de la recherche, comme celle que le Front populaire a organisée dès 1938, peu avant sa chute, et ou celles qui se tiendront au début des années 80 sous François Mitterrand, qui demeure un peu les assises de 81-82, c'est un peu le modèle du genre, souvent imité, pas toujours égalé, on pourra dire, devant alors les universitaires, les chercheurs, mais aussi les hommes politiques, il y a des administrateurs, il y a des industriels, il y a des syndicalistes qui se sont réunis à Caen. Pierre Mendès France fait un discours inaugural très fort, très engagé, le 1er novembre 1956. Je vais en citer le début, là aussi. « Voici 21 ans que nous n'avons pas recueilli un prix Nobel scientifique. » Ça, il n'en démord pas, c'est le prix Nobel que l'on a... C'est un critère, en effet, c'est un critère d'ailleurs qu'on met en avant constamment, donc il n'y a pas de raison que lui ne le fasse pas aussi. De partout s'élèvent des cris d'alarme. La recherche fondamentale, source première de toute invention, s'étiole, se réduit de jour en jour. Et il semble en effet que les progrès décisifs accomplis depuis la guerre en physique nucléaire, en physiologie et en génétique l'aient été en dehors de nous. La langue française a cessé d'être la première langue des savants. Bon, ça, il a un petit peu un temps de retard, ça faisait quelques années déjà que c'était le cas, mais bon. Notre contribution aux grandes revues scientifiques mondiales, qui pourraient mesurer l'abondance, sinon la qualité de notre apport au fonds commun des découvertes, reste dérisoire. Alors, les trois jours de réflexion et de débat intense qui se déroulent à Caen, sous la présidence de Mendès France, débouchent sur un véritable manifeste, composé d'un préambule solennel qui en appelle à tous les Français et d'un certain nombre de propositions de réformes concrètes qui passeront à la postérité sous le nom des 12 points du colloque de Caen. Une nécessité y est tout d'abord évoquée, celle de l'impulsion de l'État. Pas de dirigisme, mais l'impulsion de l'État qui se traduirait par la mise en place d'une autorité politique chargée exclusivement de la recherche et de son orientation et de son financement, devant soutenir devant le Parlement un plan décennal d'expansion avec trois objectifs: doubler le nombre d'étudiants dans les secteurs scientifiques et techniques, quadrupler les promotions d'ingénieurs et décupler le personnel de la recherche et de l'enseignement scientifique. Les autres propositions que formule Pierre Mendès France à ce moment-là, sous le couvert du colloque, mais on sent bien que l'impulsion vient de lui, tout aussi ambitieuses, elles traduisent également les idées, ses idées. Extension de l'enseignement scientifique au niveau secondaire et technique, décloisonnement de l'enseignement supérieur avec renforcement des liens entre les facultés et les grandes écoles, la grande question qui se pose tout au long de l'histoire de la recherche en France, depuis la fin du XVIIIe siècle, construction d'établissements de recherche et d'enseignement scientifique, réforme profonde de l'administration de l'éducation nationale, une autre grande question qui se pose là, avec l'octroi d'une plus large autonomie aux universités, l'autonomie des universités, déjà à cette époque-là, ça aussi, ça fait partie des sujets qui tournent. C'est pas la même autonomie, je suis d'accord. J'ai ouvert une brèche, vous glissez tout de suite dedans. À cela s'ajoute la demande d'un meilleur statut pour les personnels du CNRS. Alors là, c'est très regrettable quand on lit les conclusions du colloque de Caen de 1956, c'est que le CNRS, à la fois a brillé par son absence, il s'est très peu investi dans cette réflexion qui a eu lieu à Caen en 1956, et en même temps, quand il s'est enfin fait représenter, il a demandé qu'une chose, assez corporative finalement, c'est un statut pour ses personnels. Mais aussi la volonté de revaloriser les carrières de la recherche fondamentale et de l'enseignement supérieur, Donc hein, toujours proposition de Mendiès France, le soutien de l'État à la recherche appliquée, la réforme des études médicales, dont vous avez en effet parlé, hein, l'expansion de la recherche agronomique, etc., etc. Mais les circonstances, une fois encore, pèsent sur l'application de ce formidable programme ébauché à Caen en 1956. Alors qu'il œuvrait à la préparation du colloque, Pierre Mendès France s'est peu à peu éloigné de René Bière, Bière qui était à cette époque-là ministre de l'Éducation nationale, et du nouveau chef de gouvernement qui était Guy Mollet. Pas au sujet des questions de recherche sur lesquelles il pouvait trouver un terrain d'entente, mais au sujet de l'Algérie, tout simplement. Car Mendès France avait le sentiment, et d'ailleurs la suite de l'histoire lui a donné complètement raison, que la politique défendue par Mollet allait quand même vers le mur dans ce domaine-là. Alors au final, ces questions scientifiques, qui apparaissent quand même souvent à l'époque comme une variable d'ajustement, hein, en tout cas comme des sujets situés à la marge de ce que l'on considère alors comme les grandes préoccupations prioritaires, et notamment le délitement de notre empire colonial, hein, ces questions finissent par être toujours sacrifiées sur l'autel de nécessités que l'on estime alors tout simplement plus impérieuses, à tort ou à raison. Hein, mais c'est vrai qu'il y avait quand même urgence dans l'empire. Alors ces recommandations sorties de Caen, Mendès France les portera à plusieurs reprises devant l'Assemblée nationale, où il ne rencontrera pas le succès, devant l'opinion, en multipliant les interventions, en renouvelant ses appels lors d'un deuxième colloque national qui se tiendra cette fois-ci à Grenoble, hein, autour de la science et relations entre science et industrie, sans trop de succès non plus. Il y a un petit côté Cassandre, en fait. On a l'impression, dans les démarches qu'il entreprend à cette époque, Cassandre, on peut dire encore plus malheureuse que celle de l'Antiquité, de la mythologie, tout simplement parce que Mendès France non seulement constate avec désespoir que ses amis politiques ne l'entendent pas ou ne le suivent pas sur ces questions de recherche scientifique, mais aussi constate quelques années plus tard que ce sont ses opposants qui vont reprendre à leur compte et appliquer avec succès les recommandations qui ressortent de Caen et des années de réflexion qui ont préparé le colloque ou qui l'ont prolongé. Alors, dès la fin de l'année 58, j'en arrive à une autre page de l'histoire de France, le nouveau, dont je suis obligé de parler, Michel, je suis désolé, c'est dans la continuité. Dès la fin de l'année 58, le nouveau pouvoir gaullien, auquel Mendès France s'oppose fermement, viscéralement, met en œuvre, tambour battant, tout le canevas qui avait été patiemment constitué tout au long des années 50 par le député de l'heure et autour de lui par tous les scientifiques qu'il avait réussi à mobiliser. Alors, Mendès France avait défendu la nécessité d'une autorité supérieure pour la recherche scientifique. En 1959, se met en place la Délégation générale à la recherche scientifique et technique, hein, la DGRST, certains d'entre vous s'en souviendront peut-être, qui animera pendant une vingtaine d'années la politique scientifique française. Il avait milité pour des échanges plus réguliers entre le politique et le scientifique, constatant l'insuccès du Conseil supérieur qu'il avait mis en place en 1954. Dès 1959, un comité consultatif de la recherche est instauré, composé d'une douzaine de savants, on les appelle très vite les 12 sages, qui ont un accès direct au nouveau chef de l'État, au général de Gaulle, hein, qu'il rencontre deux fois par an pour lui rendre compte des résultats et lui faire part des besoins. Et justement, pour la question des besoins, il avait surtout recommandé, Pierre Mendès France, une hausse considérable des moyens. On ne décuple pas le personnel des établissements scientifiques sans injecter un peu d'argent. Elle est, dès 1959, colossale, cette hausse, hein, et surtout pérenne, puisqu'elle ne faiblit pas jusqu'au départ du général de Gaulle. Hein. Pendant 10 ans, la recherche est très, très bien financée. Alors, pour vous faire une idée, j'aime bien toujours citer cet exemple concret, puisque vous avez beaucoup parlé aussi de l'histoire du CNRS. C'est le budget du CNRS qui a doublé en 2 ans, entre 1959 et 1961. Hein, ça, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'établissement. En 2 ans, doublement du budget. J'aime bien aussi citer cette anecdote découverte dans les archives du conseil d'administration du CNRS, où j'ai trouvé la remarque d'un administrateur en 1959, après l'annonce du budget octroyé à l'établissement par le nouveau pouvoir gaullien pour l'année suivante. Hein, il dit « Mais qu'allons-nous faire de tout cet argent ?» Je vous mets au défi de retrouver, quel que soit l'établissement scientifique, quelle que soit l'université, quelles que soient les archives que vous allez consulter, une même remarque, et quelle que soit l'époque aussi, à n'importe quelle autre période. Mais je m'empresse aussi de préciser tout de suite que les chercheurs ont, comme d'habitude, ça, il faut faire toujours pleinement confiance à leur esprit d'initiative, très vite trouvé quoi faire de cet argent, et ils ont très vite réussi à le dépenser en totalité.
Je suis pas là.
Hélas, vous l'avez compris, pour vous parler de la recherche scientifique sous l'ère gaullienne, hein, cela nous emmènerait de toute manière jusqu'à demain matin. Et c'est donc avec Mendès France que je finirai cette présentation. Jean-Louis Crémieux-Briac cite cette réponse que Mendès lui a faite lorsqu'il s'était montré désolé de voir que le programme en faveur de la recherche scientifique qu'il avait contribué très largement à bâtir avait été mis en œuvre par le nouveau, par les gaullistes, en fait, tout simplement. Des gaullistes qui, soit dit en passant, n'avaient pas une idée précise en arrivant, voire même, je pense, pas d'idée du tout en arrivant en responsabilité de ce qu'il convenait de faire dans ce domaine, mais qui se doutaient quand même, qui avaient cette intuition forte que la recherche scientifique avait quelque chose à faire avec la grandeur de la France, hein, notion ô combien importante pour eux, évidemment, mais qui, du coup, ont appliqué à la lettre les recommandations qui avaient été formulées dans le sillage de Mendès France, alors que lui-même n'avait jamais trouvé les moyens de les appliquer, ni n'a eu le temps, tout simplement, de le faire auparavant. Alors, ça doit quand même être très agaçant, hein, de se faire piquer des idées et puis de voir qu'au final, quand c'est un autre qui les applique, bah, qu'elles étaient bonnes, puisque ça fonctionne très bien. Réponse de Mendès France à Crémieux-Briac, nous menons tous en commun une grande entreprise que nous ne devons jamais oublier. Le travail que nous faisons est destiné à servir une cause, celle du pays, celle de la France dans son ensemble. Alors, peu importe, en somme, aux yeux de Mendès France, que le bon remède soit administré par le mauvais médecin, hein, puisque tant qu'il l'est, ce remède, tant qu'il est administré et au plus grand bénéfice du patient, c'est-à-dire de la France, tant mieux. Et c'est à ça aussi, c'est peut-être même à ça surtout, que l'on reconnaît le grand homme d'État, beaucoup plus que le grand homme politique. Voilà, merci beaucoup.